Bonjour les enfants, demain c'est le lundi de Pentecôte et aujourd'hui nous allons lire la suite du récit de la semaine passée dans le livre des Actes qui va nous apprendre ce que représente cette fête. Avant de retourner au ciel, Jésus demande à ses disciples d'attendre à Jérusalem. Jésus leur a dit qu'ils allaient recevoir ce que le Père avait promis. Dieu a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Lorsqu'ils auront reçu le Saint-Esprit, ils devront être les témoins de Jésus. Jésus leur a dit qu'ils vont annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem, puis un peu plus loin en Judée, puis encore plus loin en Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il s'est élevé, a disparu dans un nuage, et il est retourné dans la gloire du ciel. Les disciples sont retournés attendre le Saint-Esprit à Jérusalem, comme Jésus l'avait ordonné. La promesse du Saint-Esprit. Une promesse est un engagement à faire quelque chose de précis. La venue du Saint-Esprit fait partie des très anciennes promesses de Dieu. En effet, plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu annonce qu'il déversera son esprit sur son peuple. Il recevra un esprit nouveau qui lui permettra de vivre dans l'obéissance et la fidélité à Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus, le Fils de Dieu, renouvelle cette promesse et annonce qu'elle va bientôt se réaliser. L'esprit descendra sur les disciples après son ascension. Comme nous allons le voir dans le deuxième chapitre des Actes, Dieu tient sa promesse et envoie le Saint-Esprit sur les disciples du Christ, le jour de la Pentecôte. Tandis que les apôtres attendent à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit, ils n'ont aucune idée de la façon dont il manifestera sa présence, ni en quoi consistera ce don. Nous allons découvrir ensemble cet événement important qui s'est produit le jour de la première Pentecôte après l'ascension de Jésus. Ce que le Seigneur accomplit et commence ce jour-là est tout simplement prodigieux. Pour bien en saisir la portée, lisons ce qui est rapporté par Luc dans le livre des Actes. Acte 2, 1 à 47. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie, et d'Élam, il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. » Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils sont complètement ivres !» Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant, se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur. Et mes paroles sont pleines de joie. Mon corps lui-même reposera dans l'espérance. Car Seigneur, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré, et sa tombe se trouve encore aujourd'hui parmi nous. Mais il était prophète, et il savait que Dieu lui avait promis avec serment que l'un de ses descendants lui succéderait comme roi. David a vu d'avance ce qui allait arriver. Il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts et son corps n'a pas pourri dans la tombe. » Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous. Et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants. » Ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble, dans leur maison, et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Le Saint-Esprit descend sur les disciples le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est une célébration qui a lieu le 50e jour après la Pâque. C'est une fête importante dans le calendrier juif. Ils présentent des offrandes à Dieu pour le remercier pour ce qu'ils ont récolté dans leurs champs. Et c'est pourquoi des centaines de milliers de Juifs, dont beaucoup viennent même d'autres pays, sont à Jérusalem. Puisque Jésus est ressuscité le jour de la Pâque, nous savons donc que le Saint-Esprit s'est répandu 50 jours après sa résurrection. Les foules entendent un bruit venant du ciel, comme un vent, un violent coup de vent. Les disciples voient des sortes de langues de feu se poser au-dessus de chacun d'eux. Ce phénomène ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissent. Il se passe encore quelque chose de vraiment étrange. Les disciples commencent à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ces signes miraculeux montrent la présence puissante du Saint-Esprit. Ils sont une preuve de l'accomplissement de la promesse de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit. Il y a dans la ville de Jérusalem des Juifs venus de partout. Certains ont fait de longs voyages depuis leur pays pour participer à la fête. En entendant le bruit étrange de vent violent, ils viennent voir ce que c'est. Et ils sont stupéfaits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Comment d'humbles Galiléens peuvent-ils s'exprimer clairement dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises? Normalement, c'est impossible. Que chacun puisse entendre et comprendre la bonne nouvelle de la résurrection et de l'ascension de Jésus dans sa propre langue est un miracle et une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit produit deux sortes de réactions. Certains ne croient pas au miracle qu'ils voient. Ils se moquent des apôtres et prétendent qu'ils ont bu trop de vin. Et d'autres se posent des questions. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ne comprennent pas ce qui donne aux apôtres la capacité de parler dans leur langue. Avant de monter au ciel, Jésus a promis aux apôtres qu'ils recevraient la puissance du Saint-Esprit et qu'ils seraient ses témoins à Jérusalem. Un témoin de Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'est Pierre ce jour-là. Après avoir entendu ceux qui disent qu'ils ont trop bu, Pierre se lève et s'adresse à la foule. Pierre commence son discours en expliquant à la foule ce qu'elle est en train de voir. Ce ne sont pas des hommes qui ont bu trop de vin qui sont devant eux, mais des preuves vivantes de ce qui avait été annoncé de la part de Dieu par le prophète Joël. Le fait que les disciples puissent parler des langues étrangères qui leur sont inconnues est la preuve que l'Esprit promis par Dieu est arrivé. Pierre donne ensuite son témoignage sur la vie de Jésus. Jésus a montré qu'il était le Messie, par des miracles, des signes et des actes extraordinaires qu'il a fait au milieu d'eux. Jésus est le Messie que les Juifs attendaient depuis des centaines d'années, et il leur rappelle que c'est eux qui l'ont fait crucifier et qu'il est mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Si Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Pierre et ses amis en sont témoins. Ils l'ont vu durant 40 jours après sa résurrection. Ils l'ont touché, ils ont même mangé avec lui. Pierre leur annonce que Jésus est monté au ciel désormais et il est assis à la droite de Dieu. Luc écrit dans Actes 2, 37 que, lorsque Pierre arrête de parler, de nombreuses personnes sont profondément touchées. Elles le supplient de leur dire ce qu'elles doivent faire. Le Saint-Esprit a travaillé leur cœur à travers le discours de Pierre. Il les a convaincus de péché. Et leur repentance est sincère. Ils savent qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. Quand ils demandent ce qu'ils doivent faire, Pierre les appelle à changer de vie, à se détourner de leur péché, à se soumettre à Dieu et à se faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Le baptême dans le nom de Jésus n'est pas un moyen de recevoir le pardon. Celui qui se fait baptiser montre par cet acte que le sang de Jésus a été versé sur la croix pour ses péchés et qu'il reconnaît que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Après un discours fait de témoignages et de reproches, Pierre promet à tous ceux qui se repentent qu'ils recevront, comme les disciples, le don du Saint-Esprit annoncé par les prophètes. Ceux qui croient en Jésus-Christ et qui se repentent de leurs péchés recevront le baptême du Saint-Esprit. Pierre précise que cette promesse est aussi pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Et pour vos enfants, pour les générations suivantes. Parce que la puissance de l'Esprit œuvre à travers les paroles de l'apôtre Pierre, ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Le Saint-Esprit a donc convaincu de péché 3000 des auditeurs de Pierre. Ce jour-là, ils se repentent, décident de changer de vie et de soumettre leur vie au Christ. Ces 3000 personnes reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle en choisissant de se soumettre à Jésus-Christ et à son évangile par la foi. La vie de ces 3000 personnes est complètement transformée par le Saint-Esprit. Chacun peut constater que leur vie est complètement transformée. Ils ont soif d'entendre parler de Jésus et de connaître ce qu'il a enseigné. Ils sont tous unis comme une grande famille. Ils partagent la même communion, ils prient tous ensemble et ils prennent soin les uns des autres. Tous sont animés par un désir de louer Dieu et ils se réunissent fréquemment dans le temple pour l'adorer. Par tous les aspects de leur vie, ils montrent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur agit à travers eux, avec puissance par le Saint-Esprit, et il ajoute chaque jour à la communauté des croyants, tous ceux qu'il sauve. Retenons ce verset. Acte 2, 38. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est encore valable aujourd'hui. Quiconque se repent de ses péchés et suit Jésus, son Fils, recevra le même Saint-Esprit que les apôtres au jour de la Pentecôte. La semaine prochaine, nous lirons la suite dans le livre des Actes et nous verrons comment Pierre et Jean vont annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Au revoir les enfants et à dimanche prochain.